Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Plus que trois jours pour le début de la campagne électorale en RDC. En Ituri, cependant, la présence des groupes armés empêche la libre circulation, entre autres, des candidats aux élections de décembre à Djougou et à Irumu. Ces derniers demandent au gouvernement de garantir la sécurité dans ces entités. À propos des tensions à Malembankoulou dans le Haut-Lomami, il est inadmissible que la vie humaine soit banalisée de la sorte. Il est plus que temps que tout le monde revienne à la raison et que la paix règne partout. C'est le message de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Pour Mgr Fulgence Muteba, le vivre ensemble et la paix doivent caractériser tout le monde. Et puis, l'invité de ce midi, Archip Kiusa, infirmier superviseur chargé des activités de prévention et de surveillance épidémiologique dans la zone de santé de Oicha à Beni. Il nous parle de la situation épidémiologique de la rougeole dans cette zone. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Un acteur politique et son équipe sont tombés mardi dans une embuscade des miliciens de la Codeco à Lida, dans le territoire de Djougou. Selon certains candidats au scrutin de décembre prochain, la présence des groupes armés empêche leur libre circulation dans les territoires de Djougou et Irumu. Ce, alors que nous sommes à trois jours du lancement officiel de la campagne électorale. Ces candidats demandent au gouvernement de garantir la sécurité dans ces entités en vue d'offrir à tous les acteurs politiques les mêmes chances de réussir site aux élections générales. Isaac Remoyope nous fait le point.
Plusieurs localités dans les territoires de Djougou et Irumu sont occupées par les groupes armés qui circulent avec leurs armes, ce qui, selon certains candidats, constitue un blocage pour la libre circulation des personnes. Le mardi dernier, une délégation du parti politique Alliance des Congolais acquis au changement ACAC, qui s'est rendue à Boulé, sa base électorale, est tombée dans une embuscade des miliciens de la Codeco à Lida, dans les territoires de Djougou. Ces derniers les ont dépouillés de l'argent et des téléphones après les avoir menacés de mort. Son secrétaire exécutif provincial demande au gouvernement de contraindre les groupes armés à déposer des armes pour le bon déroulement du processus électoral dans cette province. Janine Makoussi.
En tant qu'une maman candidate, comment est-ce que dans ce pays, dans ce territoire, on ne peut pas circuler? Impossible. On ne peut pas accepter de tels sales besoins. Jusqu'à où on va partir avec tout cela? Jusqu'à ôter même la vie de ceux-là qui partent au champ. Nous, on a vécu cela aujourd'hui et nous voulons que cela cesse.
Des sources militaires indiquent que la situation sécuritaire s'est nettement améliorée grâce aux efforts de l'armée dont l'effectif sera renforcé à Ituri. C'est l'envie de mettre hors d'état de nuire les groupes armés réfractaires au processus de paix. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Processus électoral. La commission électorale a produit pour la première fois le glossaire de la langue des signes pour rendre accessibles tous les concepts électoraux aux personnes vivant avec handicap, principalement aux personnes qui communiquent par des signes. C'est ce qu'a expliqué Madame la ministre en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambola, d'hier au cours d'une conférence de presse conjointe avec son collègue des médias Patrick Mouyaya. La ministre Irène Essambo est au micro de Paul Matendo.
Pour la toute première fois, la CENI a produit les glossaires de la langue des signes. Au même moment que nous, on était en train de travailler sur le dictionnaire de la langue des signes, la CENI était en train de travailler sur ces glossaires-là qui permet d'identifier tous les concepts par rapport aux élections et comment les expliquer aux personnes qui ne communiquent pas de la même manière que nous. Et la CENI travaille également avec les personnes aveugles par rapport à la loi électorale pour traduire la loi électorale en écriture braille. Tout ça, c'est pour rendre accessibles toutes les informations liées au processus électoral à ces catégories qui ont des problèmes spécifiques de communication. Et pour ce qui est des personnes handicapées physiques, quand vous allez au bureau de la CENI, vous allez voir vers le boulevard, ils ont même fait la rampe. Aujourd'hui, une personne avec handicap qui a des revendications peut facilement aller à la CENI avec sa chaise roulante, rencontrer le personnel.
Toujours élection, le secrétariat exécutif provincial de la commission électorale, CENI Congo Central, a organisé hier un cadre de concertation à l'intention de toutes les parties prenantes au processus électoral. Selon la secrétaire exécutive provinciale de la CENI Congo Central, cette rencontre vise la sensibilisation pour la participation massive au scrutin et à l'utilisation du dispositif électronique de vote. Nana Plurich Mambo.
Les élections à tous les niveaux auront bel et bien lieu ce 20 décembre.
Confirmation de Bernardine Kitondo-Bodi, secrétaire exécutive provinciale de la centrale électorale du Congo central au cours de ce cadre de concertation, pour ainsi réveiller celles parmi les parties prenantes qui doutent encore de la tenue de ces scrutins. C'était aussi une occasion pour la CENI Congo central de sensibiliser les parties prenantes sur les avantages et la fiabilité qu'offrent les dispositifs électroniques de vote par rapport à la machine à voter qui avait une mauvaise connotation. Quant à l'objectif de ces assises ayant regroupé près de 200 personnes parmi lesquelles les acteurs politiques, les représentants des regroupements et partis politiques, les observateurs nationaux et internationaux, les CESAC, la presse ainsi que la société civile, Bernardine Kitondo précise.
L'objectif est de sensibiliser les parties prenantes au processus et puis les informer à quelle étape est-ce que nous sommes arrivés et surtout de les appeler d'aller sensibiliser surtout les regroupements, partis politiques, la société civile, leur base, pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir une forte participation.
Ces cadres de concertation a été sanctionné par l'exercice de simulation du nouveau dispositif électronique de vote, DEV en sigle. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Dans le même registre, la CENI Antenne du Sud Kivu continue à bénéficier de l'accompagnement de la MONUSCO dans les efforts d'aboutir aux élections libres, crédibles, apaisées et transparentes le 20 décembre prochain. Une campagne de sensibilisation électorale dans le Sud Kivu a eu lieu hier à Walungu Centre où toutes les parties prenantes ont échangé sur leur rôle afin d'organiser des scrutins non émaillés des violences. Il s'agit bien entendu des élections générales, provinciales, municipales et locales. Nous y reviendrons. Au Maniema, la Caritas de Développement Kindu a sensibilisé également hier les hommes et femmes des médias sur les élections apaisées. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d'appui à la prévention des violences électorales pour la cohésion sociale dans la ville de Kindu, les territoires de Punia, Kailo, Kibombo, ainsi que les chefferies de Beniasamba et Basongé 1, territoire de Kasongo. Selon les organisateurs, cette sensibilisation vise un climat de paix et la cohésion sociale durant le processus électoral. Le compte-rendu de Florence Kizalunga.
Ils étaient au total 30 journalistes à être sensibilisés sur le rôle de médias dans la prévention des violences avant, pendant et après les élections et les médias face à la non-violence dans le processus électoral au Maniema. Abbé Christian Kungwa, représentant du directeur de la Caritas Développement Kindu, donne l'objectif.
Nous référons aux trois cycles électoraux qui sont déjà passés. Réellement, il n'y avait pas de cohésion sociale. Il n'y avait pas de paix. Et raison pour laquelle nous avons invité les journalistes pour qu'ils jouent bien leur rôle. Nous ne voulons plus que les choses que nous avons vécues les années passées puissent se reprendre. La balle est encore entre nos mains. Si nous jouons mal notre carte, c'est que les 5 années qui viennent seront les années chaotiques. Les journalistes doivent travailler sans peur.
Les journalistes ont eu des mots justes pour remercier les organisateurs. Gentil Muyombo est de la Radio Mali.
Après les enseignements récits, nous promettons de nous conformer comme il faut et suivre à la loupe les orientations que Caritas nous a communiquées de la science du travail. Donc c'est de travailler dans le strict respect des codes éthiques déontologiques et aussi des lois régissant la carrière de la presse dans la République démocratique du Congo. En tout cas, de mon avis, j'ai salué la tenue de ces assises qui était vraiment opportun et qui tombe à point nommé.
C'est avec l'appui du PNID que s'est organisée cette rencontre. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, les atrocités commises sur des paisibles citoyens dans plusieurs coins de l'espace Grand Katanga mobilisent les énergies pour que pareille situation cesse. Pour l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, le vivre ensemble et la paix doivent caractériser tout le monde. Pour Monseigneur Fulgence Muteba, il est inadmissible que la vie humaine soit banalisée de la sorte. Il est plus que temps que tout le monde revienne à la raison et que la paix règne partout. Monseigneur Fulgence Muteba, au micro de Jean Gandou.
Je suis horrifié par la montée de la violence et ses conséquences fâcheuses au sein de la population congolaise du Katanga. Aussi, je condamne avec la dernière énergie toute incitation à la violence aveugle, à la haine tribale, tout discours de division et de mépris des autres, ainsi que toute provocation à base ethnique. J'appelle toute notre population congolaise du Katanga à cultiver et à préserver la paix et à se mettre résolument à l'école du vivre ensemble.
Et justement, à propos de la situation à Malimbankulu, la cité, cette cité du Olomami retrouve sa quiétude après des journées de tensions qui ont occasionné mort d'homme au regard de l'ampleur de la situation qui a prévalu sur le terrain. Les appels sont lancés à toute la population locale à privilégier la paix et la cohabitation pacifique, comme vous venez d'ailleurs de le suivre avec l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Pour sa part, la société civile et les ONG de défense des droits de l'homme s'activent pour que la paix revienne et que les auteurs de ces actes ne reste pas impuni afin que pareille situation ne se reproduise plus. Jean Gandou nous en dit plus.
Les appels au calme dans le territoire de Malimbankulu se multiplient. C'est le cas du président des ressortissants de Malimbankulu, Jethro Muyombi, qui appelle les uns et les autres à privilégier la paix.
Je voudrais appeler toutes les parties au calme, à la paix. Nous avons besoin de vivre ensemble. J'ai fait des messages à autant des notables et même au chef coutumier sur place. J'ai parlé avec certaines personnes pour leur demander de calmer tout le monde à Malimbankulu et d'utiliser des voies de droit pour revendiquer.
Toujours au sujet de la situation qui a prévalu à Malimbankulu, deux ONG de défense des droits de l'homme de Lubumbashi, à savoir Humanisme et Droits Humains et Action contre l'impunité des droits de l'homme, sont allés à la rencontre du commandant de la deuxième zone de défense, Hubert Tishuaka de ACIDH.
Oh, nous sommes très surpris de savoir que les FRDC avaient déjà pris des précautions. Déjà dès le premier jour, quand les images ont commencé à circuler, ils ont instruit les militaires qui étaient sur place de renforcer la police qui était débordée. Ils ont calmé la situation et il y a même d'autres unités qui sont arrivées sur place.
De son côté, la Fondation Katangaise, qui regroupe toutes les associations socioculturelles du Grand Katanga, à travers son président Raphaël Moututa, appelle les uns et les autres à revenir à la raison. Il préconise aussi le dialogue et le respect mutuel pour le vivre ensemble. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Autre réaction à la situation de Malimbankulu au Kasaï, le collectif des femmes déplore des actes de violence et tueries dont ont été victimes certains Kasaïens à Malimbankulu. Dans une déclaration hier, ces femmes se disent consternées et condamnent ce qu'elles considèrent comme une barbarie, indiquant qu'il est inadmissible que l'on observe ce genre de comportement dans un pays démocratique où toute personne a le droit de vivre où elle veut. Ce collectif demande à la justice de se saisir du dossier afin que les auteurs répondent de leurs actes. Un extrait de la déclaration de ces femmes dans ses propos recueillis par François Kadima.
Nous condamnons avec la dernière énergie ce genre de violence, de tuerie généralisée sur le peuple kassaïen habitant à Malimbankulu. Pendant cette période électorale où nous prêchons la paix, l'unité et la cohabitation pacifique, la constitution de la RDC à son article 30 stipule que toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer la résidence, de le quitter et du revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Ces actes de barbarie ne peuvent pas rester impunis. C'est ainsi que nous recommandons à la justice de se saisir du dossier afin de rétablir les responsabilités et mettre hors d'état de nuire les auteurs. Au nom de toutes les femmes du Kasaï, nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles éprouvées.
Rendons-nous à présent au Nord Kivu. Une accalmie règne ce jeudi pour le quatrième jour consécutif sur les lignes de front opposant les rebelles du M23 aux forces armées de la RDC et groupes armés locaux. C'est notamment dans les territoires de Masisi, Rutshuru et nord de Nyiragongo. Des sources locales expriment cependant des inquiétudes sur la situation humanitaire dégradante, en particulier dans la chefferie de Bwito. Plusieurs villages des groupes Bambo et Mutanda se sont vidés de leur population les deux dernières semaines. Le récit de Bernard Denyangi.
Ces sources parlent d'au moins 150 000 familles qui ont fui la zone de Bambo, Kishishe, Kibirizi et autres villages environnants pour s'exiler vers le groupement et commune rurale de Kanyabayonga. Le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur à Bambo en déplacement à Goma précise que les villages de Bambo et Kishishe, par exemple, sont complètement vidés de leurs habitants depuis le 26 octobre dernier. Monsieur Isaac Kibira plaide pour une assistance humanitaire d'urgence en faveur de cette population déplacée qui se concentre en majorité à Lusoa, dans le groupement de Kanyabayonga, au nord de la chefferie de Bwito. Selon plusieurs sources locales, après la réoccupation de Bambo et Kishishe, à l'issue des violents combats le week-end dernier contre l'armée congolaise et les groupes armés locaux, les rebelles du M23 poursuivent les opérations de ratissage. C'est notamment dans la zone appelée Mozambique, en plein parc de Virunga, qui serait un important bastion des rebelles FDLR. Nos sources estiment que si la calmie règne dans la zone, la situation sécuritaire y reste instable et volatile. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes à Madagascar. Les électeurs malgaches choisissent ce jeudi leur prochain président dans un contexte tendu face au président sortant Andry Rajoelina, candidat à sa réélection. 10 candidats de l'opposition ont appelé au boycott. L'un des enjeux majeurs pourrait être le taux de participation dans un contexte de vives tensions entre le camp du président sortant et les 10 candidats de l'opposition. Le préfet d'Antananarivo, la capitale, a condamné hier des actes de sabotage après des incidents la veille avant de déclarer un couvre-feu nocturne de mercredi à ce jeudi jusqu'à 4 heures locales. L'opposition conteste l'éligibilité du président Rajoelina, devenu français en 2014, disent-ils.
L'invité.
Elle nous vient du Nord Kivu. Cela fait 2 mois que la zone de santé de Oicha, dans le territoire de Beni, n'a enregistré ni notifié un cas de l'épidémie de rougeole. Cette épidémie a sévi pendant 2 ans dans cette zone de santé. Comment expliquer cette situation et quelles sont les mesures prises afin de barrer la route à cette épidémie dans une zone par ailleurs reconnue pour son insécurité récurrente? Nous en parlons avec l'infirmier superviseur chargé des activités de prévention et de surveillance épidémiologique, Archip Kiusa, est avec Marc Marofimbo.
Archip Kiusa, bonjour.
Oui, bonjour.
La zone de santé de Oicha a été secouée par la rougeole des environs avec plus de 2000 cas et des dizaines de décès. Quelle est la situation actuelle de cette épidémie après la série des campagnes de vaccination dans cette zone de santé?
Vous allez savoir que notre zone de santé, depuis 2022 et à 37e semaine, nous avons été dans l'épidémie de rougeole. C'est-à-dire à partir de 37e semaine de l'année 2022 jusqu'à décembre, nous avions notifié 452 cas de rougeole avec 5 cas de décès. Et ceci, c'était dans 15 aires de santé sur les 27 qui composent la zone. Nous avions vacciné, hormis Kainama et les autres structures à cause de l'inaccessibilité dans ces lieux. Il y a une grande campagne qui est venue s'ajouter, ça c'était en main. Quand nous parlons de grande campagne, c'est-à-dire organisée maintenant par notre gouvernement, la RDC. Et là, nous avons vacciné dans toutes les aires de santé, bien sûr, avec Kainama, que nous, on pensait qu'on ne devrait pas atteindre Kainama. Pour dire que, de janvier 2023 à septembre 2023, nous avions notifié 2357 cas, malheureusement, avec 13 cas de décès. Pour vous dire, si on ajoutait les 4 salaires pour l'année 2022, avec ce chiffre que je viens de vous donner, c'est-à-dire la zone a enregistré pendant la durée de l'épidémie qui s'évoche dans les deux années, 2022 à 2023, 2809 cas, malheureusement, avec 18 cas de décès. Maintenant, la particularité, c'est quoi? Les 80% de ces décès proviennent des enfants, des déplacés, qui étaient dans des sites, qui vivent une vie misérable, puisque ça trouvait les enfants sur un terrain de malnutrition. Là, ces enfants-là ne pouvaient pas résister. Mais Dieu merci, à partir du mois de fin septembre, octobre, jusqu'à nos jours, nous sommes en train de surveiller cette maladie, aucun nouveau cas jusque-là.
Alors, quels ont été les défis auxquels vous avez fait face lors de cette campagne de vaccination?
D'abord, comme je venais de vous le dire, la notification c'était à 2022, 37e semaine. Depuis lors, on n'avait pas les vaccins. Alors, la riposte est venue un peu tardivement. On n'avait pas les moyens pour riposter, puisqu'il fallait avoir le matériel d'inoculation, c'est-à-dire les vaccins, les seringues. Et à part ça, il faut aussi le personnel qui est bien formé pour faire cette activité. Il y a aussi entre ces par rapport à ces mouvements de la population suite à la sécurité. Et ceci en fait en ce que quand les gens sont attentés, alors ça plus favoriser cette épidémie. Et aussi, il faut savoir que l'épidémie a commencé d'ailleurs dans les sites de déplacés. Et c'était prévisible par rapport à ça.
Il faut prévenir que guérir, dit-on, oui, avec tout ce que la zone de santé d'Oicha a vécu comme épidémie des rougeoles. Quelles sont les mesures préventives que vous avez prises?
Alors, les mesures sont nombreuses. D'abord, signaler les cas bien avant. Ça concerne dans la communauté, c'est-à-dire notre population. Quand il y a un cas suspect, ils doivent le dénoncer dans un centre de santé proche. Et les centres de santé, à notre tour, doivent aussi nous alerter et nous devons prélever et envoyer l'échantillon pour confirmer la maladie. Nous devons réagir les séances de vaccination dans les aires de santé. Nous devons sensibiliser les parents à faire vacciner les enfants et respecter vraiment les calendriers vaccinales. Au niveau maintenant des hiérarchies, c'est nous rendre disponibles les vaccins en permanence, qu'il n'y ait pas de rupture en vaccin. Et à part ça, nous remercions d'abord notre gouvernement puisqu'il nous a doté aussi des frigos solaires. On n'en avait pas beaucoup. On avait dans la zone 4 sur les 27, mais on nous a ajouté 10, ce qui est avantageux. Et vous savez, maintenant, on a rapproché les vaccins auprès de la population. Et là, on est à l'aise pour vacciner, même si on n'a pas encore installé le frigo de Kainama, mais le frigo est déjà à Kainama. Suite à la sécurité, un moment venu, on doit toujours installer à tout prix ces frigos.
Archip Kiusa, nous vous disons merci.
Merci.
Notre invité, l'infirmier superviseur chargé des activités de prévention et de surveillance épidémiologique dans la zone de santé de Oicha, nous sommes au Nord Kivu, répondez aux questions de Marc Marofimbo. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.